Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France Culture pour les conférences du Carême protestant. Durant toute la période du Carême, nous vous avons proposé une série de conférences sur les fondamentaux du protestantisme autour de cette idée forte de Luther, Coram Deo, vivre devant Dieu. Et nous sommes toujours en compagnie de Jean-François Brenne, pasteur de l'Église protestante unie de France à la paroisse luthérienne Saint-Jean à Paris. Pasteur Jean-François Brenne, bonjour.
Bonjour.
Alors vous intitulez cette sixième et dernière conférence « À Dieu seul la gloire, être libéré ». Alors une petite question en introduction sur le terme de gloire, rendre gloire à. Qu'est-ce que ça veut dire exactement dans le contexte biblique ?
Alors il ne s'agit surtout pas d'une allusion à quelque chose de glorieux et à tout ce qui ressemble au bling-bling. Au contraire, le mot gloire en hébreu, kabod, vient d'une racine kabad qui signifie ce qui a du poids, ce qui est lourd. Donc en fait, rendre gloire, c'est qu'est-ce qui a du poids dans ma vie ? Sur quoi je peux véritablement m'appuyer ? Qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui a de poids d'une façon ultime pour mon existence ? Voilà, c'est ça la gloire.
À Dieu seul la gloire, être libéré. Je vous laisse maintenant la parole, pasteur Jean-François Brenne, pour ce temps de conférence.
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations. Le second verset de ce psaume 67 recèle une ultime surprise. Ton salut parmi toutes les nations. Et voilà qu'en quelques mots, c'est toute une compréhension du peuple élu qui se trouve bouleversée, littéralement, parmi les goïms, parmi les non-juifs. Surgit déjà l'idée que l'élection d'Israël ne se limite pas à une terre, mais dépasse ses frontières. Ne se limite pas à un peuple, mais dépasse les seuls liens du clan et de la tribu. Mais c'est avec le Nouveau Testament, et plus singulièrement avec l'apôtre Paul de Tarse, que l'idée de l'extension à tous, à l'universel, va véritablement se développer. Celui-ci écrit avec fougue « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Ce qui faisait les repères structurants des sociétés juives de l'époque volent alors en éclats, et c'est désormais chaque homme, chaque femme, quelle que soit son origine, son genre, son statut social, qui peut être concerné. Comment ce passage fut-il rendu possible ? Par un double déplacement. Celui d'abord d'une sorte d'absolutisation de Dieu en Christ, qui se trouve placé au-dessus de toute autre chose. Et de ce geste en découle un second, alors tout le reste devient relatif. Comme le précise le théologien André Gounel, les protestants ont pris comme devise « solide et au gloria, à Dieu seul la gloire ». Dieu seul est Dieu. En dehors de lui, rien n'est sacré, divin ou absolu. Il dépasse tout ce que nous pouvons voir, toucher, penser ou imaginer. Il ne se confond pas avec ce qui manifeste sa présence. Il existe toujours une distance et une différence entre ce qu'il est et ce qu'il exprime. On doit par conséquent sans cesse se révolter contre ce qui prétend le représenter et le définir. Il faut obstinément se refuser à identifier et à assimiler la réalité divine avec les signes qui nous en sont donnés. La protestation protestante consiste d'abord, me semble-t-il, en cette révolte et ce refus. Fin de citation. La première conséquence de ce refus sera dans la rupture opérée avec la logique du pur et de l'impur, qui se conjugue toujours avec celle du sacré et du profane. Plus rien n'est sacré, sauf Dieu lui-même, dans son altérité absolue. Mais rien ne saurait prétendre le représenter ni l'enclore. De sorte que plus rien n'est sacré, ni les églises, ni les ministres de celles-ci, ni les pouvoirs politiques, ni même nos représentations du bien ou du mal. Mais tout est appelé à devenir saint, c'est-à-dire occasion de la rencontre avec ce Dieu qui se donne en se cachant, qui se cache en se donnant. La sainteté n'est plus un idéal auquel il faudrait tendre, à la force de notre piété, de notre morale, mais la sainteté devient le chemin ordinaire de la foi lorsque l'homme se laisse transfigurer par la grâce. Dietrich Bonhoeffer l'exprime très bien lorsqu'il écrit « J'ai compris plus tard, et je continue d'apprendre, que c'est en vivant pleinement la vie terrestre qu'on parvient à croire. quand on a renoncé complètement à devenir quelqu'un, un saint ou un pécheur converti, ou un homme d'église, un juste ou un injuste, un malade ou un bien portant, afin de vivre dans la multitude des tâches, des questions, des succès et des insuccès, des expériences et des perplexités, et c'est cela que j'appelle vivre dans le monde, alors on se met pleinement entre les mains de Dieu, et c'est ainsi que l'on devient un homme, un chrétien. Fin de citation. Oui, de vivre aussi dans la perplexité, dans le risque de décisions dont nous ne savons pas si par elles-mêmes elles sont justes ou non, mais dans l'exigence de la justice qui demeure. Elle devient même cruciale, car ce refus du sacré ouvre l'homme ou la femme de foi, paradoxalement, un espace de liberté et de responsabilité. De liberté d'abord. Mais cette liberté ne vient pas de nous-mêmes. Elle n'est pas à confondre avec l'idée de liberté chère aux philosophes grecs de l'Antiquité, stoïciens par exemple, pour lesquels la liberté est d'abord politique et définit le statut de l'homme libre dans le cadre d'une société démocratique, puis se déplace sur le terrain de l'existence personnelle, en particulier sous la forme de détachement, de simplicité et de renoncement. Non. La liberté ici vient d'un autre qui est Dieu. Elle vient d'un acte de libération dont le croyant devient le bénéficiaire. Dieu est celui qui libère l'homme. Déjà, le judaïsme l'avait expérimenté dans le geste fondateur et central de la libération de la servitude en Égypte. Paul va plus loin encore en appliquant cette libération à tous ceux qui écoutent l'appel de Dieu proclamé en Jésus-Christ. Et cette nouvelle bouleversera le jeune moine Martin Luther lorsqu'il lira dans l'Épître aux Galates « C'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ vous a libérés ». De sorte que ce verset deviendra la clé de voûte de sa théologie, à telle enseigne que l'on peut dire que l'ensemble de la théologie de Luther se concentre dans cette devise. Écoutons donc ces versets au chapitre 5e des Galates. « C'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira plus de rien. Et j'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi intégralement. Vous avez rompu avec le Christ si vous placez votre justice dans la loi. Vous êtes déchu de la grâce. Quant à nous, c'est par l'Esprit, en vertu de la foi, que nous attendons fermement que se réalise ce que la justification nous fait espérer. Car pour celui qui est en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision ne sont efficaces, mais la foi agissant par l'amour. » Fin de citation. Ces versets résonnent comme le résumé de toute l'Épître, dans un appel passionné à choisir la liberté. Ce que Paul ici dénonce, c'est l'esclavage de la loi, comprenons la loi religieuse, et au-delà, tous les esclavages, quels qu'ils soient. Il s'oppose à tout ce qui voudrait remettre l'homme sous une quelconque servitude. Mais cette libération est paradoxale, car elle ne peut se réaliser que dans la soumission au Christ. C'est cette soumission qui libère de toutes les autres aliénations. Soumission non plus à des règles, à des prescriptions rituelles ou légales, des interdits moraux, non, mais abandon libre et confiant à cette parole de grâce et de vie qui résonne à travers les pages de l'Évangile. Non plus chercher à faire, mais se laisser faire, se laisser transfigurer, dira encore Paul, par le renouvellement de notre intelligence, afin de déployer notre être intérieur, l'homme spirituel, cher à la terminologie paulinienne. Mais ici, une précision s'impose. L'homme intérieur, chez Paul, n'est pas celui qui entre en intériorité. C'est, paradoxalement, celui qui se laisse saisir et transformer par une parole extérieure. L'homme spirituel, autre appellation que donne Paul, n'est pas l'homme qui se rassemble en lui-même dans un dépassement de soi, mais l'homme qui se laisse pénétrer du souffle divin. L'homme intérieur ou spirituel s'oppose à ce que Paul appelle l'homme charnel. Mais ici encore, un piège de compréhension nous guette, car l'homme charnel n'est pas l'homme physique ou livré aux seules passions de la chair, dans une opposition dualiste corps versus esprit, non. L'homme charnel, c'est l'humain tout entier, en tant qu'il se renferme sur lui-même, qu'il se ferme aux autres et à Dieu. Luther usera d'une belle image pour expliquer cela. Il parlera de l'homme recroquevillé sur lui-même, in curvatus in se. Notons chemin faisant que nous avons là une assez juste définition du péché. Ce qui sépare et renferme, ce qui brise la relation avec Dieu, avec les autres, avec soi-même. Le péché n'est pas d'abord dans la désobéissance, il est dans le refus de l'autre. Je dis que la révolte contre le sacré ouvre l'homme, la femme de foi, paradoxalement, à un espace de liberté et de responsabilité. Car cette liberté n'est pas celle de faire n'importe quoi. Elle est le champ de l'exercice de notre responsabilité. Liberté et responsabilité vont de pair. Oublier l'un des deux termes, c'est immanquablement dévoyer l'autre. Une éthique de la responsabilité, donc. Dietrich Bonhoeffer, qui s'opposa au nazisme et le paya de sa vie, sait ce qu'il en est et ce qu'il peut en coûter. Il exprime en ces termes. Seule une vie dépréoccupée d'elle-même, grâce à ce lien de la foi, connaît la liberté d'une vie et d'une action personnelle. C'est en nous tenant pour responsables de nos semblables et en nous comportant de manière conforme à la réalité que nous faisons connaître le lien qui unit l'homme à Dieu. C'est en sondant nous-mêmes notre vie et nos actions et en prenant le risque d'une décision concrète que nous signalons notre liberté. Fin de citation. Revenons à notre lettre aux Galates. Paul termine par ces mots « Pour celui qui est en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sont efficaces, mais la foi agissant par l'amour. » Je relève la fin du verset « La foi agissant par l'amour. » Qu'est-ce qu'une foi agissante? Qu'est-ce que l'agir de la foi? La foi est une idée, un concept, une expérience intime, un saisissement. Mais il faut qu'elle s'incarne, qu'elle prenne corps en nos vies. Sinon, elle n'est qu'une belle illusion. Dietrich Bonhoeffer, comme Wilfred Monod et tant d'autres, disent que la foi s'incarne dans nos vies par deux choses, l'action et la prière. L'action, c'est-à-dire tous les combats pour la justice, dans l'exercice de notre liberté responsable et de notre responsabilité libre, nous l'avons vu, et puis par la prière. Si la foi consiste à passer du « il » au « tu », alors le premier lieu de ce tutoiement et la prière. Car prier, c'est donner corps à notre foi et respiration à notre action. Prier, c'est peut-être aussi le lieu où s'éprouve notre foi, notre liberté, notre responsabilité. Mais qu'est-ce que prier? Écoutons encore une fois Bonhoeffer. Comme si le cœur pouvait naturellement prier. Nous confondons le souhait, l'espérance, le soupir, la plainte ou la joie, c'est-à-dire ce dont le cœur est par lui-même capable, avec la prière. Prier veut dire trouver le chemin qui mène à Dieu, d'un cœur plein aussi bien que d'un cœur vide, et parler avec lui. Cela, aucun homme ne le peut par lui-même, il a besoin de Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ seul que nous pouvons prier, et c'est aussi avec lui que nous sommes exaucés. Fin de citation. Souvent, ce qui fait obstacle à notre prière, ce sont nos images de Dieu, nos représentations de lui, tout ce que nous projetons et imaginons. Ainsi, la question de l'agir de Dieu dans le monde est centrale et cruciale, mais je ne vais pas développer cela aujourd'hui. Je voudrais me situer en amont de ces questions et peut-être retrouver un des sens les plus profonds de ce que j'appelle prier, mais que l'on peut aussi appeler méditer ou oraison. En effet, nous réduisons tous spontanément la prière à une seule chose, la demande, la conversation avec Dieu, la parole. Il s'agit encore de dire, de parler, alors qu'il en va pour moi tout autrement. La prière est d'abord mise en présence, reliance, un déplacement pour se replacer devant Dieu, coram Deo. Prier, ce n'est pas prononcer des paroles, mais être devant Dieu, dit très justement l'exégète Daniel Marguerat. La prière est comme la respiration. Elle est composée de deux éléments indissociables, l'inspiration et l'expiration. À ces deux mouvements de la respiration, l'inspire et l'expire, correspondent les deux mouvements fondamentaux de la prière, l'écoute et la parole. Mais je prétends que la prière est d'abord et avant tout une écoute, et que c'est cette écoute qui nous donne à notre tour, comme en une réponse, d'oser prendre la parole devant Dieu pour lui crier notre détresse, notre joie, notre terreur, c'est selon. Mais d'abord, il y a l'écoute. Ce qui caractérise la prière dans les évangiles, c'est cette possibilité de se poser devant Dieu et d'oser une écoute attentive. Et pour cela, il faut deux choses. Prendre du temps et prendre de la distance. Il y a ce mouvement essentiel qui résume tout, se mettre à l'écart. Ainsi, la prière serait d'abord un mouvement, un déplacement. Aller dans la pièce du fond, dans le secret du plus intime, et là, se mettre à l'écoute. L'Évangile selon Matthieu nous en donne une très belle illustration dans ces versets qui précèdent directement l'enseignement du Notre Père. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues et les carrefours afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte. Il y a ce mouvement de prise de recul, de prise de temps dans l'agitation de l'existence qui est fondamentale. Il s'agit de ménager dans l'espace très agité de nos vies un temps de décalage, de silence et de recentrement. Un petit mot revient deux fois dans ce passage, celui de secret. L'idée n'est plus à la mode. En ce temps de transparence obligée, d'open space et de réseaux sociaux où il convient de tout dire et de tout montrer. Allons, aurions-nous quelque chose à cacher ? Matthieu, d'ailleurs, quelques chapitres plus loin, ne dira-t-il pas qu'il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé, utilisant le même petit mot grec, crypto. Oui, mais voilà. Matthieu parle alors du témoignage de la foi. Mais pour rencontrer Dieu, il faut non pas se cacher, mais aller dans le lieu caché, c'est-à-dire au plus intime de soi. Car le secret, c'est le lieu de l'intime, par excellence. Il faut ici oser l'affirmer. Le secret est indispensable à l'homme. L'homme transparent, c'est le fantasme des pouvoirs totalitaires ou des annonceurs en tout genre. Si le droit au secret n'est pas maintenu, écrit Jacques Derrida, nous sommes dans un espace totalitaire. Davantage même, le secret, c'est le lieu de la maturation. Il représente un espace intime où la pensée peut mûrir le temps nécessaire, précise encore le docteur Pierre Lévy-Soussan dans son livre « Éloge du secret ». La prière est l'activité par excellence dans le secret. Dans la première épître de Pierre, ce dernier parle de l'homme intérieur en usant de cette belle formule, littéralement, l'homme caché du cœur. Et nous retrouvons notre mot secret, crypto. Mais revenons à notre texte. Quand tu veux prier. Ainsi, la prière dans les évangiles n'est jamais une obligation, elle n'est pas une loi, elle est offerte comme la possibilité d'une rencontre. Avec une seule certitude, Jésus, lui, priait. Chez Luc, du premier jour de son ministère public, au moment de son baptême, à ses derniers mots sur la croix, Jésus prie. Serions-nous plus forts que lui, que nous estimions que nous pouvons nous en passer? Les mots de sa prière, nous n'en savons rien, sinon peut-être les derniers mots, justement, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Père, entre tes mains, je confie, j'offre mon souffle. Chez Luc, le verbe traduit par remettre a le sens de donner, d'offrir, de confier. La prière, comme lieu et temps de la rencontre. Rencontre avec son Dieu, rencontre aussi avec les autres. C'est la place que je ménage dans mon écoute et ma parole pour tous ceux qui habitent ma vie. Rencontre enfin avec soi-même. Je pense que dans notre vie moderne, où tout va si vite, où tout évolue, change, bouge tout le temps, où il faut toujours justifier, expliquer, commenter, prendre ce temps du silence et de l'immobilité au cœur de nos journées peut nous être salutaire. Prendre le temps de s'asseoir ou de s'agenouiller ou de rester debout, qu'importe, mais trouver la place de son corps pour la prière. Et cela ne serait-ce qu'un quart d'heure, de façon régulière, pour réaliser concrètement avec son corps cette mise à l'écart, ce mouvement d'aller vers ce lieu secret de notre cœur, et simplement se mettre à l'écoute. La lecture d'un psaume, le chant d'un cantique, et puis à nouveau, faire l'expérience du silence. Faire silence. Il ne s'agit pas ici du mutisme, mais du silence qui est l'activité profonde du cœur qui écoute. C'est une expérience très forte qui peut transformer bien des choses. Non pas le silence pour lui-même, mais le silence pour se mettre dans un état de disponibilité attentive à soi-même, à l'autre présent à mon esprit, à Dieu enfin. Un Dieu au-delà des mots, des concepts, des catéchismes, mais simplement prendre le risque de cette rencontre. La pasteur Francine Carillo le dit magnifiquement à sa manière de poète. Commencer par asseoir sa journée sur un linge de silence. Descendre au profond de soi, en dessous des mots. Dans ce lieu sans lieu où s'annonce la rencontre. Ne rien vouloir, sinon être là, dans l'ouverture à ce qui vient. Se laisser faire et défaire par la pulsation de l'éphémère jusqu'à cet agenouillement du dedans qui signe la vraie prière. Fin de citation. Et puis alors oser une parole en vérité, une parole qui peut déposer, qui peut dire sa détresse et sa joie, sa foi et ses doutes, sa souffrance et ses plaisirs, ses échecs et sa plénitude. Une parole qui peut demander l'essentiel, le souffle. La promesse de l'exaucement dans l'évangile de Jean, c'est ce souffle saint, ni plus ni moins. Point ici question de magie, de superstition ou d'idolâtrie, mais de l'essentiel qui fait vivre, le souffle de Dieu dans la vie, qui vient redonner force, sens et courage d'être à mon quotidien. En fait, il est quasiment impossible de décrire la prière. Comment décrire en effet l'acte de nager à quelqu'un qui n'est jamais rentré dans l'eau. Nous retrouvons l'intuition de Luther, la foi est une expérience. Parlant de la prière et de l'attention qu'il faut y porter, Luther écrit « Un bon coiffeur doit porter toute son attention sur le rasoir. S'il se mettait à bavarder ou à penser à autre chose, il risquerait de vous couper le nez ou la gorge. Toute chose qui doit être bien faite exige l'homme tout entier. À plus forte raison, la prière exige le cœur tout entier, si la prière doit être une bonne prière. » Nous avons commencé ces conférences de carême avec les versets d'un même psaume et qui ont rythmé chacune d'entre elles. Pourquoi un psaume ? Parce que le psautier se trouve à l'articulation des Écritures et de la prière, justement. Sûrement, parfois, nous nous demandons comment prier lorsque la souffrance des jours, la violence du malheur viennent frapper à notre porte. Comment écouter encore? Qui écouter encore? Et puis que dire encore? Comment trouver les mots lorsque le cri s'étrangle en notre gorge? Eh bien là, à ce moment-là, s'offrent pour nous les psaumes. Tout à la fois parole de la Bible, où se donne à entendre une parole de Dieu, et parole humaine, où se donne à entendre les cris de notre humanité. Le psautier joue un rôle central et bien particulier dans la piété du chrétien. Il lui donne des mots lorsqu'il n'a plus de mots et qu'il ne sait plus que dire. J'avoue un attachement tout particulier pour le psautier et la prière des psaumes qui m'accompagne chaque matin depuis très longtemps. Et je crois que la parole des psaumes travaille notre parole, que ces mots nous travaillent en secret et petit à petit, tout doucement, comme imperceptiblement, nous transforment et nous transfigurent. Allez, une dernière fois, une citation de Luther au sujet du psautier. En lui, tu possèdes un excellent miroir, clair et pur, qui te montrera ce qu'est la chrétienté. En vérité, tu t'y découvriras toi-même. Tu y trouveras le véritable « connais-toi toi-même », ainsi que Dieu lui-même et toutes les créatures. » Fin de citation. Je sais pourtant qu'ils sont pour beaucoup d'entre nous difficiles à entendre, ces mots des psaumes, car ils semblent venus de tellement loin. Et pourtant ils décrivent, comme aucun autre, toute la palette des émotions humaines, de la joie la plus explosive à la violence, c'est vrai, la plus destructrice. Mais justement, la prière des psaumes offre le lieu d'une parole non censurée, où tout, oui, tout peut être déposé devant Dieu pour qu'il le transfigure dans sa lumière. Oui, se laisser transfigurer par le Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est encore l'apôtre Paul. Ici, une remarque de vocabulaire s'impose. Matthieu utilise, pour dire la transfiguration, un mot grec que nous connaissons tous, puisqu'il a donné en français « métamorphose »,« métamorpho ». Un petit mot rare, qui n'apparaît que 4 fois dans tout le Nouveau Testament. 2 fois pour le récit de la transfiguration du Christ, chez Matthieu et chez Marc, et puis 2 fois chez Paul. Mais lorsque ce dernier l'utilise, ce n'est pas pour parler du Christ, mais de nous. Écoutons-le. Nous tous, nous sommes transfigurés en un même visage, de gloire en gloire par le Seigneur. Et ailleurs, soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence. Paul emploie le même mot que Matthieu et Marc, métamorpho. Ce mot qui n'apparaît que 4 fois, je l'ai dit, dans tout le Nouveau Testament, 2 fois pour Jésus, 2 fois pour l'homme. Ainsi, ne disons plus « Christ est transfiguré », si nous ne pouvons pas dire en même temps « Je suis, tu es transfiguré avec lui ». Laisse-toi transfigurer par le Christ transfiguré. Comment ? Dieu lui-même l'a dit sur la montagne, en écoutant le Fils. Et nous retrouvons notre écoute, inspire de la prière. C'est avec les oreilles que l'on peut voir la vraie lumière. Écoutez-le. Écoute. Ce qui fait encore écho au premier mot de la prière juive, « Shema Israël, écoute Israël ». Et si c'était cela, finalement, le but ultime ? Se découvrir soi-même dans l'éblouissement d'une lumière entrevue et depuis revendiquée et sans cesse recherchée et qui fait de nous désormais des pèlerins de lumière. Se découvrir soi-même dans la folie d'une parole reçue qui nous ouvre un chemin possible et qui fait de nous désormais des cheminots de la foi, des cheminots des mots. Se découvrir soi-même enfant d'une promesse née d'un sourire et qui fait de nous désormais des funambules de la grâce.
Ainsi s'achève cette 6e et dernière conférence du carême protestant, intitulée cette année « Coram Deo, vivre devant Dieu ». Merci à vous tous de nous avoir suivis. Un grand merci à Jean-François Brenne, pasteur de l'église protestante Unie de France, à la paroisse luthérienne Saint-Jean à Paris. Merci également à toute l'équipe du carême protestant. Pour plus d'informations et pour retrouver les textes, rendez-vous sur les sites carême-protestant.org ou bien écrivez au carême protestant, 27 rue de l'Annonciation, 75 016 Paris. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant carême protestant. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à Olivier Dupré pour la prise de son. Une émission proposée par le carême protestant et la Fédération protestante de France, présentée par Benjamin Bories. Restez à l'écoute pour la suite de vos programmes avec le carême catholique. Bonne fin de journée sur France Culture.